France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Les allergies au pollen touchent aujourd'hui un tiers des adultes en France et un nombre croissant d'enfants. Ce n'est plus un simple rhume saisonnier. Les symptômes s'aggravent, durent plus longtemps et peuvent aller jusqu'à l'asthme sévère. En cause, le réchauffement climatique, la pollution, mais aussi une prise en charge souvent trop tardive. Derrière les éternuements se cache parfois une vraie souffrance physique, psychique. Alors face à cette épidémie silencieuse, il est temps de prendre les allergies au sérieux et pour ce faire, un invité ce soir, Nyan Famti. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Vous êtes allergologue à Paris, vous êtes ancien chef du service d'allergologie de l'Institut Pasteur et je suis accompagné comme chaque mercredi par Julien Buisson. Bonsoir Julien.
Bonsoir Quentin.
Directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1, merci à vous et à vous deux d'être avec nous ce soir à Question du Soir. Demain tous allergique, Julien, c'est la question que vous posez cette semaine dans l'hebdomadaire Le 1. Pourquoi cette question ?
Eh bien parce que justement, c'est une, comme vous l'avez dit, une épidémie méconnue et mal considérée. On a voulu apporter des réponses avec des médecins, des allergologues, mais aussi quelques détours culturels avec Marcel Proust, Emmanuel Lévinas, Raymond Queneau ou encore une nouvelle inédite de Serge Joncourt.
Eh bien, bien accompagné, tentons de comprendre ce qu'est une allergie.
À chaque printemps, c'est la même galère pour Sébastien.
On respire moins bien, donc on se sent un peu plus faible. Sont fatigués régulièrement.
Les pollens, de vrais problèmes pour la muqueuse respiratoire.
J'ai mes yeux qui commencent à gratter. Et j'ai commencé à avoir envie d'éternuer.
Ça pique. Et puis les maux de tête. Voilà. On va déguster maintenant. Ce soir, je vais sortir avec une amie. Je vais être. Ça va me gâcher ma soirée.
Ça, là, pour lui, c'est dramatique. C'est l'œuf. Mais l'œuf cru. Dès qu'il en a sur les mains, en fait, il a les mains qui commencent à gonfler.
Il y a un enfant qui a des traces sur ses doigts qu'il a mangé un yaourt avant. Et après, il me touche, je peux faire une réaction.
En cas de réaction allergique grave, ces seringues d'adrénaline pourraient bien sauver la vie du petit garçon.
Alors on va tenter de comprendre, Nyan Famti, l'ampleur du phénomène, l'ampleur de cette épidémie silencieuse. Mais commençons peut-être par le début, en toute logique. Qu'est-ce qu'une allergie ?
Comme vous avez entendu dans les témoignages, ça peut revêtir beaucoup de formes différentes en fait. Donc la base, le pilier, c'est que il faut d'avoir des gènes qui sont anormalement programmés. Et donc j'explique aux patients que vous avez deux familles de gènes qui sont modifiées. La première famille de gènes, c'est un système immunitaire qui est plus chatouilleux. Et donc, il peut être chatouilleux à différents endroits, au niveau des surfaces, dans le système circulant et à plus ou moins haute intensité. Et donc ça, c'est programmé génétiquement. Et puis, vous avez une deuxième série de gènes qui va programmer pour les barrières. Donc, ce que j'appelle barrières, c'est les surfaces, la peau, les voies respiratoires, le tube digestif, même le cerveau, mais ça c'est un autre, on en a parlé un petit peu, et donc ça donne une espèce de porosité, c'est-à-dire que ça va laisser passer plus facilement les bactéries, les protéines, et donc tout ce monde extérieur va devenir envahissant pour l'organisme et qui va se défendre et réagir de manière totalement anormale. Donc ça permet d'expliquer très facilement aux gens, aux enfants, ce qui se passe et pourquoi, de les déculpabiliser et puis pour expliquer l'influence de l'environnement sur ces événements-là.
Il y a des personnes qui culpabilisent d'être allergiques, d'être frappées par les allergies ?
Au moins les parents, parce qu'ils se disent « mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ai-je mal fait ? Qu'ai-je fait dans l'environnement ?» Donc déjà, ça permet de dire « bon bah voilà, c'est vraiment pas de chance, ça arrive parce que c'est un effet global en fait de l'environnement, partiellement mais potentiellement. »
Julien Buisson.
Alors, Nyan Famti, est-ce que si les allergies sont des réactions au monde extérieur, est-ce que tout peut être allergène ou est-ce qu'il y a des éléments spécifiques qui vont pouvoir constituer ces allergènes ?
Le système immunitaire va d'abord reconnaître ce qu'on appelle les protéines. Donc, ces protéines qui composent la majorité des êtres vivants. Et c'est comme ça, d'abord, qu'on... Le but premier, c'est de reconnaître dans le bon sens pour fabriquer de la tolérance par rapport à ce qu'on mange, la nourriture qui passe par notre bouche et qui est reconnue comme étant amie par ce système douanier immunitaire, dit que voilà, la nourriture qui passe est bonne, il n'y a pas de problème. Les bactéries qui composent notre microbiote, et donc tout cela doit être bien toléré et on doit vivre en parfaite harmonie avec ça. Donc ce sont des protéines qu'on reconnaît et donc ça passe par les protéines. Mais effectivement, rarement, on peut avoir des sucres aussi qui peuvent, ce qu'on appelle sucre, c'est pas celui qu'on met dans le café, mais celles qui composent en fait nos cellules. on peut réagir à ça. Et on peut réagir, mais pas de manière immuno-allergique, mais à des produits chimiques, à des polluants. Mais ça, c'est plus de l'irritation, c'est plus de l'aggravation de cette réaction. Mais le mécanisme qui se décuple dans notre système immunitaire et qui passe par les immunoglobulines qu'on appelle les IgE, les anticorps, hein, qui sont présents dans notre corps et qui vont reconnaître tout d'un coup la protéine extérieure, que ce soit l'œuf dont on a parlé tout à l'heure ou le pollen, ça, ce sont des protéines.
Pourquoi le pollen, justement, vous venez d'en parler, est-il l'allergène par excellence? Qu'est-ce qui fait que dans cette petite chose-là, on vient tant d'allergies qui l'accompagnent?
C'est une très bonne question. On n'a pas le fin mot de l'histoire, mais il y a plusieurs facteurs qui jouent là. Il y a la concentration qui augmente à cause du réchauffement climatique, ça c'est démontré. Il y a la présence vraiment très concentrée dans l'air, c'est-à-dire que trop c'est trop pour le corps, lui il prend ça pour une agression. Donc il y a la concentration qui est là. Et puis peut-être qu'il y a des éléments protéiques que le corps reconnaît de manière assez spécifique. Il faut savoir que dans le pollen, ce que le corps reconnaît comme étant un allergène, c'est une protéine de défense. C'est-à-dire que le grain de pollen, et aussi bien le fruit, parce qu'il y a des allergies croisées, la pomme par exemple, eh bien, cette protéine qu'on appelle la PR10 est une protéine de défense qui permet au grain de pollen et aux fruits de se défendre lui-même contre des bactéries, contre la moisissure. Donc ces protéines de défense, de manière très cynique, est mal reconnue par notre système immunitaire et une sorte de conflit qui se met en place. Donc il y a longtemps à dire sur le point de vue philosophique, mais il en est ainsi.
Julien Bisson.
Quand on pense aux réactions allergiques, on peut penser à différents types de réactions. Là, on a parlé du rhume des foins, mais par exemple, une allergie à la cacahuète va avoir une réaction totalement différente. Pourquoi est-ce qu'il y a ces réactions justement différentes? Est-ce que c'est lié au type d'allergène auquel on est confronté?
C'est lié au type d'allergène et puis c'est lié aussi à la surface sur laquelle elle est posée et à la quantité. L'arachide, la cacahuète, a des allergènes. Il n'y a pas qu'un seul allergène, mais il y a des protéines qui sont redoutables. Et on ne sait pas pourquoi elles sont si mal reconnues et si mal vécues par notre organisme. Et donc, cette cacahuète-là a la propriété de nous faire réagir, mais au quart de tour, quand on est vraiment allergique. Et c'est fou parce que même une quantité infime, imaginez que dans le TGV, quelqu'un a mangé des cacahuètes, du beurre de cacahuète, j'ai des patients qui peuvent réagir rien qu'en passant à côté. C'est-à-dire que la présence infime de cette protéine, même de manière invisible, peut faire réagir de manière très forte quelqu'un, un patient. Alors qu'effectivement, vous pouvez être allergique au chat, par exemple, et avoir un chat à la maison, et quand même pouvoir le supporter, avoir des symptômes, mais ça, la quantité d'allergène joue, la qualité, je dirais, c'est-à-dire la spécificité de l'allergène joue, mais ça, ce sont des jeux de puzzle, de briques immunologiques, et il se trouve que la conformation de certaines protéines, eh bien, notre corps y est très sensible.
Quel est le rôle joué par les émotions, par le stress, justement, dans notre inclination à être allergique, à être sensible, justement, à certains allergènes? Est-ce qu'on connaît ce lien? Est-ce qu'on a réussi à établir un lien de causalité?
Oui, on a de plus en plus de données qui viennent expliquer, en fait, cette influence grâce à des études, et puis notamment depuis que je travaille pour l'armée en tant qu'officier de réserve à l'IRBA, l'Institut de recherche biomédicale des armées, qui s'intéresse à la relation entre le stress post-traumatique, le système immunitaire, on voit que, eh bien, il y a des relations. Tout simplement parce que quand votre système nerveux autonome, votre cerveau, est en activité forte, eh bien, celui-ci va sécréter plus d'hormones, de neurotransmetteurs, et ce sont ces clés-là qui viennent agir sur le système immunitaire. Donc ça veut dire que ça vient augmenter la réponse immunitaire. Donc c'est pour ça que on arrive à expliquer le côté psychosomatique de l'eczéma. Par exemple, vous faites une crise d'eczéma ou même une crise d'asthme au moment où il y a beaucoup de stress, d'angoisse ou une situation très particulière. Et ben, ce sont ces mécanismes-là qui se mettent en jeu avec le système nerveux autonome. Et puis même le stress chronique, en fait, peut exacerber ces phénomènes. Donc il y a beaucoup de données. On sait que quand on fait des dosages sanguins, quand on fait des tests... Alors, il y a une expérience très simple, très démonstrative, c'est assez rigolote, c'est que en allergologie, on fait des tests cutanés. On pose l'allergène sur le bras et puis on regarde, on mesure en fait la taille de la petite papule comme un bouton de moustique qui arrive sur le bras, là où le test est positif. Mais figurez-vous que le patient, D'un côté, vous le calmez, vous mettez de la musique douce de France Culture. Et ben, le test va être beaucoup plus petit que le jour où vous lui ferez avec du stress. Alors, comment on fait du stress? C'est facile. Vous lui posez du calcul mental à faire, les maths, voilà. Et là, la mesure va être beaucoup plus forte sur le bras. C'est-à-dire que la réaction va être décuplée par cette activité neuropsychique et par ce stress. Donc, c'est un terme extrêmement mauvais. Jamais je n'emploie ce mot auprès de mes patients. Je parle d'activité neuropsychique, de changement de rythme. Donc c'est ce qui se passe en fait. Hein. C'est quand ça turbine, boue très fort là-haut, qu'il y a cet entraînement-là.
La musique et surtout les voix de France Culture pour se détendre, et la vôtre, Julien Bisson.
Nous ne sommes pas tous égaux devant l'allergie. Pourquoi est-ce que certaines personnes sont allergiques et d'autres non? Et est-ce qu'on est NAIT allergique ou est-ce que ça peut apparaître au cours de la vie?
Très très bonne question. C'est exactement ce que l'on essaie d'expliquer tout à l'heure. Il y a ce fardeau génétique. Hein, je parle de ça avec mes patients. C'est-à-dire que on est plus ou moins égaux dans cette porosité des barrières, de cette imperméabilité à notre environnement, et notre système immunitaire est plus ou moins répondant avec le contexte de vie. Effectivement, hein. Si on est dans un environnement, disons, allez, un peu plus pollué, plus exposé à des produits chimiques, plus exposé à du stress, et ben ça a été démontrer, hein, les cohortes montrent que ces enfants-là, plus tard, sont plus allergiques. Donc il y a une inégalité génétique, une inégalité environnementale, historique, je dirais, et puis là, vraiment circonstancielle, parce qu'on a dans une époque où tout arrive un petit peu en acmé comme cela, et ça augmente le risque.
Justement, pour comprendre cette acmé, on va remonter le temps grâce à une archive issue des actualités françaises. On était le 22 octobre 1958 et déjà, les Français parlaient d'allergie.
La vie moderne vaut à un Français sur deux des manifestations allergiques. On la connaissait depuis longtemps sous d'autres noms. L'asthme, allergie. L'eczéma, allergie. Le rhume des foins, allergie. À l'hôpital Brousset, les laboratoires sont à l'avant-garde du combat. On y a vérifié le processus de l'allergie en créant artificiellement l'affection sur des cobayes, comme pour cette crise d'asthme. Au terme de ces enquêtes, les malades peuvent maintenant recevoir des piqûres de désensibilisation qui diminuent progressivement les manifestations de l'allergie. Chaque cas devant être traité spécifiquement, d'où ces vaccins inattendus. L'allergie sera-t-elle bientôt définitivement vaincue ? Les travaux du docteur Alpern et de son équipe de Brousset le laissent espérer.
L'allergie totalement invaincue, hein, Nyan Famti, puisque quelques chiffres, dans les années 70, on estimait que 6 à 7% de la population était allergique. Aujourd'hui, selon l'Académie européenne d'allergie et d'immunologie, 30% de la population souffre d'au moins un type d'allergie. Alors, comment expliquer cette explosion, notamment des allergies respiratoires?
Ils sont des chiffres qui sont en train d'augmenter encore. L'OMS prévoit même 50% de la population. Alors pourquoi ça augmente? Probablement beaucoup de facteurs, dont je reviens à ce que je disais par rapport à notre susceptibilité. Donc déjà, cette porosité, on est avec, mais elle est aggravée par l'environnement. Les produits chimiques, tout ce qui agresse en fait nos muqueuses, nos peaux, nos microbiotes aussi, ce qui vit dessus. Et donc tout ça va venir augmenter cette porosité. Alors, nouvelle qui vient de tomber, les études récentes montrent qu'effectivement les détergents et notamment ce qu'on utilise dans les lave-vaisselle, dans la lessive, vient vraiment percuter encore plus cette porosité et augmente en fait cette ouverture. On a beaucoup de perturbateurs endocriniens qui sont aussi des saccageurs immunitaires. Donc c'est encore plus fort le terme que j'emploie. Et ça vient perturber aussi la réactivité immunitaire. Donc tous ces cofacteurs viennent jouer de concert pour modifier notre sensibilité, nos modes d'alimentation, tous les produits, le sucre, les produits alimentaires qui viennent aussi changer de la présentation de l'aliment et des protéines dans notre tube digestif.
Et le réchauffement climatique alors?
Et le réchauffement climatique augmente les pollens. augmente par de manière très indirecte les conditions environnementales, l'humidité, la pollution, les pollutions, l'humidité, les moisissures, les allergènes, tout ça augmente aussi. Et donc on a cet effet combiné de l'extérieur.
Julien Bisson,
est-ce que c'est la quantité de pollen qui a changé ou est-ce que c'est la nature même de ces pollens?
Les deux, en général. La quantité de pollen a été mesurée grâce aux travaux de l'ex au feu. Réseau national aérobiologique de surveillance des airs. Et puis, de manière quantitative aussi, hein, on a observé de manière directe et expérimentale que le pollen, il y en a plus quand il y a plus de CO2 dans l'air. Donc ça a été démontré au Japon notamment, dans des grosses cages où on met des arbres et on mesure le pollen. Et puis aussi, la pollution automobile vient modifier le grain de pollen et le rend plus facilement explosable, friable, et vient avec ses particules fines et ultra fines venir augmenter la toxicité de chaque grain de pollen qui va jusqu'au fond de nos bronches et vient mettre du fuel, si je puis dire, à la réaction immunologique allergique.
Est-ce qu'on est devenu trop propre par ailleurs? J'ai lu une étude notamment qui avait été menée pendant la guerre froide à Berlin. Ouais. Cette comparaison de plusieurs logements, les premiers se situant à Berlin-Ouest, hein, du côté du mur, et les autres à Berlin-Est. Évidemment, le niveau de vie n'étant pas le même, certains logements étaient plus difficiles à maintenir dans un bon état. Mmh. Et lorsque les logements sont en mauvais état, on observe moins d'allergies et plus d'infections, mais moins d'allergies.
Alors, c'est très intéressant. Le terme propre, en fait, nous renvoie à deux notions. Premièrement, le fait que probablement notre système immunitaire a perdu la relation avec la biodiversité. Donc, les bactéries, les champignons. Ça a bien été démontré par les cohortes d'enfants des populations Amish aux États-Unis ou en Carélie du Nord, dans différentes contrées où il y a eu l'histoire qui a frappé ces populations et a séparé ceux qui ont vécu dans de manière traditionnelle et les autres qui ont basculé vers le mode occidental. Et on voit la différence avec un terrain génétique identique que l'environnement a complètement modifié leur réponse immunitaire. Ils sont plus allergiques, ils ont plus de diabète, ils ont plus de maladies immunes. Et ben ça, c'est l'environnement qui fait ça. Et c'est la perte de contact avec la biodiversité. On le voit bien quand on mesure par les cartes satellites des populations et leur biodiversité autour, on voit que leur système immunitaire est totalement changé. Donc ça, c'est vraiment très impressionnant. Ça, c'est la première partie du propre. La deuxième partie de votre propre, c'est le trop propre. C'est l'utilisation de produits, on ne citera pas de marque, mais je veux que ça brille chez moi comme à l'hôpital, ce qui est une aberration. Et donc, cette suppression encore de cette diversité bactérienne, mycologique, des champignons, va faire que notre système immunitaire va perdre un peu ses repères et sa boussole. Et donc, va pas être éduqué de la même manière que l'ont été des populations depuis des millénaires. Et ça a été programmé dans le système génétique. Et là, depuis les années 50, boum, ce qui est rien par rapport à l'évolution de l'homme, tout a changé.
Pascal Poncet, il est chercheur à l'Institut Pasteur et à l'hôpital Trousseau. Il nous ouvre la réflexion sur les allergies croisées.
On cherche à extraire les protéines de la pomme.
Nous allons voir à quoi ressemble une protéine de pomme. Et ça, c'est une protéine de pollen de bouleau.
On peut s'apercevoir que les protéines se ressemblent étrangement. On s'est aperçu que les patients allergiques au pollen de bouleau développent des symptômes principalement oraux, mais aussi parfois digestif, à la pomme. Et c'est de plus en plus grave même. Il y a de nombreux pollens qui sont impliqués aussi dans les allergies croisées. Je pourrais citer l'ambroisie, avec le melon par exemple. Et le deuxième exemple, c'est le pollen de cyprès, avec la pêche ou les agrumes.
Question de Julien Bisson.
Oui, le fait de savoir reconnaître ces allergies croisées, est-ce que ça permet d'améliorer la prévention, notamment en matière d'allergie?
Eh bien, en fait, on s'est rendu compte que, par exemple, quand on désensibilise les patients avec du pollen, on arrive très souvent à diminuer ce symptôme qu'on appelle l'allergie croisée, le syndrome oral avec les fruits crus de cette famille des rosacées très particulière qui croise avec le pollen de bouleau. Eh bien, quand on monte les doses de pollen de bouleau pour ces patients qu'on désensibilise, on arrive à leur faire remanger de la pomme, pêche, poire, abricot, etc.
Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe très fort, en apparence là encore, Nyan Famti, lorsque l'on dit d'un côté que les progrès scientifiques dans le domaine médical avancent à grands pas en matière justement d'allergie, et que dans le même temps, on risque dans les décennies qui viennent d'avoir une part importante de la population, la moitié même, qui serait sensible à ces allergies. Comment comprendre ces deux données qui avancent de concert?
Oui, c'est-à-dire que je pense que l'augmentation épidémiologique est due essentiellement à l'environnement qui nous dépasse totalement. Dès qu'on voit qu'on a du mal à lutter contre la dispersion des pesticides, etc. Enfin, tous ces éléments de consommation alimentaire nous dépassent vraiment et on n'arrive pas à toucher toute la population. Donc forcément, on sera dépassé. Mais on fait beaucoup de progrès, effectivement. La recherche, tant qu'elle existe, permet d'améliorer les traitements, la prise en charge, le diagnostic aussi des patients. Donc c'est un peu, je ferai le même parallèle qu'en cancérologie en fait. Hein, on est dépassé par tous ces cofacteurs qui viennent nous dépasser. L'industrie du tabac a toujours une avance. Je pense aux e-cigarettes, etc. Donc tous ces facteurs environnementaux nous dépassent, mais on essaye de quand on a la chance d'accéder aux soins d'un allergologue, d'avoir des moyens thérapeutiques et diagnostiques plus en plus performants.
Julien Bisson.
Oui, j'allais vous poser la question, Nyan Famti. Est-ce que le système de santé est capable de prendre en charge cette augmentation très forte du nombre d'allergiques?
Là, clairement non, hein, statistiquement. Vous voyez, on est quoi, 0,3-0,4 allergologue pour 100 000 habitants. Donc c'est juste pas possible, on ne pourra pas voir tout le monde. Donc on essaye de trouver des moyens pour essayer de diagnostiquer, de traiter le maximum de monde possible, mais il va y avoir une grande, grande inégalité là.
Il y a aussi le fait que beaucoup, beaucoup de Français ne souhaitent pas toujours venir vous voir. Je veux dire par là qu'il y a beaucoup de Françaises et de Français qui vivent avec leur allergie. Oui. Et presque qui accepte cela à chaque printemps.
Oui, oui, c'est-à-dire que notre plasticité cérébrale fait qu'on accepte très facilement ces symptômes et qu'on accepte d'être fatigué, d'être abattu pendant cette période-là. J'ai même des patients qui sortaient même plus. Ils disent c'est bon, c'est le printemps, je reste à l'intérieur. Donc, mais ça dépend de notre degré d'acceptation. Effectivement, une étude avait montré que le patient mettait 7 ans à venir voir un allergologue parce que d'une part, on voit que par exemple depuis ces 3-4 dernières années, il y a une acutisation forte des symptômes. Là, en consultation, tout à l'heure, je vois des patients, mais c'est toujours la même chose. Depuis 3-4 ans, ça devient de plus en plus fort et ça devient impossible. Donc, il y a ça. Et puis, il y a l'accès aux médecins. Et donc, l'ensemble de ces facteurs font que ça va être compliqué. Donc, mais on peut quand même se traiter déjà à la maison, à la pharmacie, il y a un bon nombre de médicaments qui sont en accès, on va dire, sans ordonnance. Donc on peut se débrouiller quand même. Effectivement, pour rentrer dans un processus de désensibilisation, de traitement plus adapté, plus personnalisé, ça va être plus compliqué.
Julien Bisson.
La plupart des allergiques en France ne peuvent en effet vivre avec cette allergie. Dans les cas les plus graves, est-ce qu'il y a des cas mortels en France? Et puis, est-ce que ça devient un handicap pour un certain nombre de personnes touchées par des allergies?
Oui, c'est-à-dire que, par exemple, quand vous êtes atteint d'asthme, ce qui est le plus fréquent, vous pouvez faire des crises d'asthme extrêmement sévères. Il y a un phénomène climatique qui arrive sur notre territoire, qui sont les orages de pollen, et on observe, comme ça a eu lieu en Australie, lors d'un orage de pollen, qui est un phénomène climatique extrêmement particulier, où tout d'un coup, pendant quelques minutes, on a une concentration phénoménale de pollen, de moisissures, de particules, qui vont donner, écoutez bien, des milliers de crises d'asthme d'un coup, même chez des personnes qui ne se connaissaient pas asthmatiques. Et donc malheureusement, sur cet épisode australien, on a eu des morts, des décès. Donc ça peut être extrêmement grave. Il y a l'anaphylaxie aussi, qui est une réaction extrême du corps face à un allergène souvent alimentaire, mais ça peut être aussi le venin d'hyménoptère, guêpe, abeille ou bien un médicament. Et donc ça donne une réaction très très forte. Le corps vraiment lâche tout totalement à ce moment-là. Donc ça peut être très grave. Et cette peur du choc anaphylactique va altérer la qualité de vie des gens. Et il a été démontré que cette qualité de vie des allergiques alimentaires est plus dégradée que, par exemple, des gens qui sont diabétiques ou bien qui ont des maladies rhumatismales. Ce qu'on peut comprendre dans ces cas-là. Mais l'allergique, on ne s'attendait pas à ce que leur qualité de vie soit plus altérée.
Vous souhaitiez, Julien Bisson, faire un lien, tisser un lien entre littérature et médecine, plus exactement entre allergie et Marcel Proust, à travers la lecture d'un extrait qui est d'ailleurs en une de l'hebdomadaire Le Monde.
Je soumets le cas à l'allergologue. C'est un extrait d'un L'ombre des jeunes filles en fleurs, 1919. Marcel Proust, on le savait, était un grand asthmatique. Ça va notamment être à l'origine ensuite de sa mort précoce. Il écrivait ceci dans L'ombre des jeunes filles en fleurs. Depuis longtemps déjà, j'étais sujet à des étouffements. Et notre médecin, malgré la désapprobation de ma grand-mère qui me voyait déjà mourant alcoolique, m'avait conseillé, outre la caféine qui m'était prescrite pour m'aider à respirer, de prendre de la bière, du champagne ou du cognac quand je sentais venir une crise. Celle-ci avorterait, disait-il, dans l'euphorie causée par l'alcool. Est-ce que c'est un bon remède, monsieur le docteur ?
Non, champagne et cognac, alors.
Je crois pas, non. Non, non. Malheureusement, c'est potentiellement un facteur aggravant. Alors après, peut-être qu'il vivait mieux sa crise et que, alors, et que il se calmait, il respirait un petit peu mieux en se calmant. À ce moment-là, peut-être, on peut imaginer cela.
Mais... Et le traitement plus général aux antihistaminiques, hein, qu'on prend pour se sauver la peau 24 heures durant, est-ce que vous les recommandez ?
Oui, bien sûr, hein, l'antihistaminique reste une très bonne molécule hein, pour calmer ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a un traitement local au niveau du nez, des yeux, et puis surtout le traitement inhalé qui a permis de sauver un grand nombre de personnes. Et après Marcel Proust, mais c'est l'invention de ces bronchodilatateurs et du traitement inhalé a sauvé la mise.
Merci beaucoup, Nian Famti, de ces explications sur la tempête du moment et je pense aux allergies. Je rappelle que vous êtes allergologue à Paris, ancien chef de service d'allergologie de l'Institut Pasteur. Julien Bisson, en quelques mots, qu'est-ce que l'on retrouve cette semaine dans le 1 donc ?
Eh bien, demain, tous allergiques avec Nian Famti, mais aussi Serge Joncourt, Madeleine Einstein ou encore le philosophe Octave Larmagnac-Matron.
Merci à vous deux d'avoir participé à la question du soir ce soir.